vous suit.
Voici les titres du journal.
Inauguration aujourd'hui à Lausanne des infrastructures qui garantiront la réponse à l'urgence vaudoise. Chef de l'état-major cantonal vaudois de conduite, Denis Froidevaux, sera avec nous dans un instant. Une grande place du marché digital de produits régionaux. Ainsi se présente RégioFood Valais. Cette plateforme numérique unique en Suisse a été lancée en mars 2021. Depuis, le projet a pris une belle ampleur. On fait le point dans ce journal avec celui qui le gère, Ludovic Delaloy. La commission santé du Conseil national s'empare aujourd'hui du délicat dossier concernant la réforme du deuxième pilier des retraites, un sujet qui continue à faire ping-pong entre les deux chambres sous la coupole fédérale. Et puis du sport aussi dans cette édition, en tennis, Adrien Berru espère décrocher un premier titre de champion suisse junior ce week-end. En tennis, un tel exploit permettrait aux joueurs de Valdier de lancer au mieux une année 2023 qui s'annonce importante pour lui.
Et pour la météo, des nuages pour aujourd'hui et pour demain, météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour. Les nouvelles centrales d'urgence et du poste de commandement des opérations de l'état-major cantonal vaudois de conduite sont inaugurées aujourd'hui. Quelques 200 invités attendus. Et pour en parler, nous avons avec nous au bout du fil Denis Froidevaux. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le chef de l'état-major vaudois de conduite et vous avez présidé le comité stratégique de ce projet. J'ai dit nouvelle centrale d'urgence et ça comprend pas mal de choses, dites-nous.
Absolument, il s'agit en fait d'un nouvel espace, d'une nouvelle centrale qui regroupe les numéros d'appel d'urgence 117, police, 144, sanitaire, 118, sapeurs-pompiers et centrale des médecins de garde, ce qui veut dire des centrales qui gèrent environ, pour ce qui concerne le canton de Vaud, 700 à 800 000 appels par année. À cela s'ajoutent les infrastructures de conduite et de gestion de crise du canton de Vaud, c'est-à-dire celle de l'état-major cantonal de conduite. Et cette centrale répond aux normes de sécurité les plus exigeantes, à savoir la norme EN5518, pardon, pour les auditeurs.
Mais je vous en prie.
Mais c'est une norme qui fixe des niveaux de sécurité informatique, énergétique, d'accès, physique, statique, les plus élevés. Et c'est la seule centrale en Suisse qui remplit les conditions pour respecter cette norme, voire même plus loin.
Oui, j'allais le dire, ce regroupement est inédit en Suisse. Mutualisation des moyens techniques, informatiques, vous l'avez dit, donc réduction des coûts aussi?
Absolument, donc évidemment que ça nécessite des investissements de départ. La centrale a coûté environ 34 millions, non compris la réalisation du bâtiment. Rappelons que cette centrale se situe dans le nouveau siège administratif de l'établissement cantonal d'assurance incendie. Mais à terme, évidemment que les charges de fonctionnement, les nécessité d'investissement grâce à la mutualisation vont être considérablement réduites et vont pouvoir trouver des synergies très importantes.
Avec cet outil, on va pouvoir quoi ? Renforcer la qualité du traitement des urgences avec une meilleure coordination entre les différentes entités ? Parce qu'on sait, ça fait beaucoup de monde hein, finalement, l'urgence dans un canton comme le canton de Vaud.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand les trois centrales, c'est plus de 70 opérateurs 24 heures sur 24 qui travaillent. Et donc ça permet de les placer, en les plaçant dans le même espace, ça permet d'avoir une meilleure circulation de l'information, ça permet d'avoir des échanges sur les différentes situations automatisées d'un poste à l'autre de travail, ça permet d'avoir également une vision d'ensemble bien meilleure en cas d'événement particulier, et ça permet surtout de faire face à tout type de situation avec fluidité, ça va du chat perché sur l'arbre jusqu'à l'événement le plus grave. Et ça permet vraiment d'avoir un travail fluide. Coordonné, décloisonné.
C'est vrai qu'il y a une complexité croissante des réponses à apporter.
Alors en fait, non seulement on assiste à une augmentation du nombre d'appels dans les centrales d'urgence, pas seulement sanitaires, mais également police, mais aussi de la complexité de la réponse à apporter et la réponse elle devient de plus en plus composite, c'est-à-dire qu'elle associe plusieurs métiers, police sapeur-pompier, sapeur-pompier sanitaire, parfois sapeur-pompier sanitaire et police, c'est de plus en plus souvent également d'autres acteurs, des acteurs sociaux, des acteurs paramédicaux, donc tout ça rend la réponse beaucoup plus complexe. Et je pense qu'on a le devoir de répondre aux attentes de la population, qui d'ailleurs, elle aussi, augmente. Hein. On avoisinera d'ici 2030 dans le canton de Vaud 900 000 habitants. Donc on doit apporter une réponse concertée et coordonnée.
Mais j'allais le dire, hein, progression de la démographie. On répond aux besoins pour quelle durée avec cette nouvelle réalisation? On va tenir le coup un bon moment?
Bon, le Conseil d'État nous a demandé de nous projeter sur 2035 par rapport au nombre d'habitants, par rapport à l'évolution du nombre d'appels. Elle a une évolutivité, on peut encore ajouter un certain nombre de places de travail. Donc nous, on a visé un horizon à 2040. Jusque-là, le canton de Vaud va pouvoir faire face à l'augmentation tant de la population que du nombre d'appels.
Merci beaucoup Denis Froidevaux. Je rappelle que vous êtes le chef de l'état-major vaudois de conduite et que c'est vous qui avez présidé le comité stratégique de ce projet de nouvelle centrale d'urgence et du poste de commandement des opérations de l'état-major cantonal vaudois de conduite. On vous souhaite une excellente journée.
Bonne journée à tout le monde, merci, au revoir.
On reste dans le canton de Vaud. Le tribunal fédéral admet partiellement le recours de 3 associations contre l'extension de la carrière du Mormont. Il reconnaît la valeur du site de la Birette et exige que le paysage soit restauré à l'issue de l'exploitation. Selon un communiqué diffusé aujourd'hui par Helvetia Nostra, Pro Natura Vaud et l'Association pour la sauvegarde du Mormont, l'arrêt rendu en 2020 par le tribunal cantonal vaudois est réformé. Le permis d'exploiter ne peut pas être délivré, en effet, par le canton. Le département de l'environnement devra tenir compte des recommandations émises par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage. Dans son arrêt, le TF estime que la richesse exceptionnelle de la colline ne peut pas être ignorée, même si l'intérêt public à la production de ciment doit l'emporter. Dans ces conditions, les modalités du comblement à l'issue de l'exploitation doivent être encore précisées et des mesures de reconstitution doivent être garanties. Les salariés d'Alstom à Villeneuve bénéficient d'un plan social. Les partenaires sociaux ont obtenu la validation par l'ensemble du personnel. En revanche, à la suite de la restructuration annoncée il y a une année, l'avenir du site demeure incertain. Selon les syndicats, les alternatives proposées jusqu'ici par les employés ont été ignorées par l'entreprise et le canton. Ils estiment cependant qu'il est encore temps d'agir. La bibliothèque de Vevey s'allie au mouvement mondial Find Free Library. Depuis lundi dernier, les frais d'inscription et de retard sont abolis. Par ailleurs, une nouvelle programmation sera lancée le 27 janvier prochain, baptisée « Et sinon, ça va ?». Elle proposera jusqu'à l'été d'hiver concerts, spectacles, ateliers et journées spéciales sur le thème du bien-être.
Réchou Food Valais va bien, merci pour lui.
Mais oui, en effet, cette plateforme digitale unique en Suisse, destinée à mettre en lien de manière simple, pratique et efficace les producteurs et revendeurs valaisans de denrées alimentaires d'une part et les professionnels de la restauration collective du canton d'autre part, va son bonhomme de chemin. L'occasion de demander à Ludovic Delaloy, porteur de ce projet qui s'inscrit en parallèle à la démarche Cuisinons de notre région, si la plus-value des produits cantonaux a augmenté depuis 2 ans ou presque grâce à Régio Food Valais.
Plus ça a augmenté grâce aux démarches cuisine dans notre région. Hein, ce sont vraiment ces démarches avec des collaborations avec notamment Fourchette Verte Valais qui permet de rendre visite auprès des différents établissements puis d'établir un dialogue. Donc ça a clairement augmenté la part des produits de proximité. Et Régio Food également joue un rôle de booster dans l'utilisation de ces produits.
Le turbo est enclenché, c'est à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Régio Food Valais. On retrouve Ludovic Delaloy.
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, je ne dirais pas jusque-là. Naturellement que cette décision est fabuleuse. Je répète, un signal aussi fort du Conseil d'État est très pertinent et tient à être salué. Par contre, il reste encore des mesures d'amélioration à mettre en place. Je rappelle quand même que Régio Food est un outil qui n'existe pas ailleurs en Suisse et certainement pas ailleurs en Europe, selon nos observations. Donc nous sommes les premiers ou dans les premiers à mettre en place un tel outil qui demande naturellement des mises à jour constantes. Donc je dirais on sera bien dans le meilleur des mondes le jour où tout sera à jour, mais disons que la direction est déjà très intéressante. L'avenir, comment je le vois? Eh bien, lorsque les collectivités cantonales pourront faire bon usage de cet outil, ainsi que les collectivités signataires des démarches cuisine dans notre région, on pourra ensuite ouvrir cet outil à l'horeca. Il y a déjà passablement de demandes qui sont faites par passablement de grands acteurs touristiques. Pour l'instant, on leur dit de ne pas utiliser cet outil parce que nous sommes conscients des mesures d'amélioration qui sont en train de se mettre en place. Et l'idée est d'offrir à notre économie touristique un outil performant qui aurait été mis en place par les collectivités cantonales.
Des perspectives réjouissantes donc. Notons encore que le projet Régio Food Valais est porté par le service valaisan de l'agriculture. La clinique de gériatrie et de réadaptation du Chablais ouvrira finalement ses portes le 1er février à Monté. Des retards de livraison de matériaux avaient contraint la direction de l'hôpital Rivière-à-Chablais à reporter l'ouverture, prévue initialement à la fin du mois de novembre dernier. Grâce à l'implication des équipes et des partenaires, les premiers patients pourront tout prochainement être accueillis sur le site de l'ancien hôpital. Actualité nationale, le trio d'économistes de l'Observatoire de la Banque Nationale Suisse sont critiques sur la décision de l'Institut d'émission de renoncer à la distribution d'un bénéfice à la Confédération et au canton, raison de la perte massive essuyée en 2022. Ils qualifient, je cite, d'illogique la procédure utilisée pour déterminer la distribution des bénéfices. Les bénéfices très importants de ces dernières années ont augmenté le total des fonds propres de la BNS. Même après les pertes de 2022, ces réserves s'élevaient encore à 67 milliards de francs à la fin de l'année. Alors si une distribution de 6 milliards, le montant maximal ne réduit pas les fonds propres de manière significative, soulignent les économistes. En outre, selon eux, la BNS a choisi de ne pas utiliser les provisions pour l'investissement à l'étranger qu'elle a précédemment accumulées d'une valeur de 95,7 milliards avant la dernière affectation pour absorber sa perte de 132 milliards et de considérer que cette décision questionne la raison d'être de ces provisions lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour absorber les pertes.
La réforme du deuxième pilier des retraites continue son ping-pong au Parlement helvétique.
Chaque chambre a en effet élaboré sa version. Il faut maintenant trouver un consensus. La commission santé du Conseil national s'empare du dossier aujourd'hui. Le projet de base prévoit une baisse du taux de conversion, donc une diminution des rentes. Toute la question est de savoir désormais comment compenser celle-ci. Un compromis entre les organisations syndicales et patronales était sur la table, mais le Parlement n'en a pas voulu. Le Parti socialiste va tenter d'y revenir, car pour lui, la version actuelle est inacceptable. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir, prévient le conseiller national socialiste vaudois Pierre-Yves Maillard.
C'est la baisse des rentes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de baisse des rentes dans ce système. Pour l'instant, ce qui est proposé, c'est une augmentation des coûts, donc chacun doit cotiser plus, employeur ou employé, mais les rentes baissent pour une grande majorité de la population. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on dit maintenant, soit on retourne à la version du Conseil fédéral qui protégeait les rentes de tous, et qui améliorait même les rentes des gens à revenus modestes, soit alors on renonce à la baisse du taux de conversion, au moins, c'est-à-dire à cette baisse de rente, et ainsi, si on doit cotiser un peu plus, on peut au moins améliorer les rentes, notamment de celles et ceux qui ont éduqué des enfants, avec un bonus éducatif, dans le deuxième pilier comme dans le premier.
La réforme du deuxième pilier devrait repasser devant le Conseil national lors de la prochaine session, au mois de mars. C'était un sujet préparé par notre correspondante au Palais fédéral, Marie Villemier. La FSP, la Fédération suisse des psychologues, a déposé plainte contre des assurances de santé suisse qui refusent de prendre en charge les prestations des psychothérapeutes en formation post-grade via leur personne encadrante. Ce refus laisse des milliers de patients sans thérapeute et met au chômage des centaines de psychothérapeutes en formation, pointe-t-elle. La plainte a été déposée auprès de l'autorité de surveillance, à savoir l'Office fédéral de la santé publique, précise aujourd'hui la FSP dans un communiqué. Le système de formation post-grade des psychothérapeutes est ainsi rendu impossible, souligne-t-elle aussi. Vous lire encore que le professeur québécois Éric Beauce a été désigné par l'Assemblée générale de l'Université de Genève pour succéder au recteur Yves Flukiger, dont le mandat se termine en juillet prochain. Le dernier mot reviendra cependant au Conseil d'État genevois, qui doit formellement nommer le recteur.
En France, Elisabeth Borne a appelé aujourd'hui les syndicats, je cite, « ne pas pénaliser les Français dans leur mobilisation contre la réforme des retraites ».
La première ministre leur a lancé un appel à la responsabilité en marge d'un déplacement à Disneyland Paris, et cela alors que les syndicats CGT de la branche pétrole font planer le risque d'un blocage des raffineries. Et Elisabeth Borne d'insister, il y a un droit de grève, un droit de manifester, mais il faut aussi être attentif au quotidien de nos concitoyens, d'autant plus qu'on est dans une période qui peut être compliquée avec de l'inquiétude, notamment sur l'inflation, a-t-elle notamment lancé, et d'appeler à des modes d'action non pénalisants. En France encore, un chasseur qui a tué en 2020 un franco-britannique de 25 ans, Morgan Keane, a été condamné aujourd'hui par un tribunal de Cahors dans le sud-ouest de la France à 2 ans de prison avec sursis et une interdiction de chasser à vie. La pandémie liée au coronavirus a ralenti la semaine dernière dans le monde sans pouvoir compenser pour autant l'augmentation observée sur un mois. Le nombre de nouveaux cas comme celui des nouveaux décès ont reculé. Selon les données publiées hier soir par l'Organisation mondiale de la santé à Genève, près de 2,9 millions de contaminations ont été identifiées la semaine dernière. La diminution atteint 9% par région. Seul le Pacifique occidental, où se trouve la Chine, fait face à une détérioration d'1%. Les reculs vont d'1% en Méditerranée orientale à plus de 35% en Europe. Côté nouveau décès, le coronavirus a fait près de 11 200 victimes la semaine dernière, en recul de 12%. Le PDG de la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis a été désigné aujourd'hui président de la conférence de l'ONU sur le climat, prévue cette année dans le riche pays du Golfe. La décision a suscité de vives critiques parmi les militants de l'environnement. On termine avec du sport. En tennis, le joueur de Valdier, Adrien Berru, sera ambitieux au championnat suisse junior. Le Chablaisien visera dès demain le titre national dans la catégorie des moins de 18 ans. Après avoir été battu plusieurs fois en finale, le Bavalaisan espère être sacré champion de Suisse junior pour la première fois de sa carrière. En tant que tête de série numéro 2 du tournoi, le pensionnaire du Centre national de performance de Bienne fera partie des favoris. Mais au-delà du titre, le Valdier entend aussi lancer cette saison 2023 sur de bonnes bases. Cette année sera en effet sa dernière au niveau junior. Il fera ensuite le grand saut chez les adultes. Et l'écart peut être grand. Les précisions d'Adrien Berru.
Sur le terrain, ça n'a rien à voir. C'est un autre jeu, une autre manière de jouer, une autre manière de travailler. Et certains s'adaptent facilement. Certains, c'est même plus facile pour eux de jouer chez les pros que chez les juniors. On passe de jouer des gens qui sont un peu notre taille, notre poids, notre âge. Et on se retrouve à jouer des adultes, des gens entre 25 et 30 ans. Sont physiquement bien plus, je sais pas si je peux dire comme ça, mais évolués que nous. Alors, c'est clair, c'est plus dur, hein, des matchs plus accrochés physiquement, et il faut réussir à tenir le coup.
Voilà, Adrien Berru, c'est de quoi il retourne, ce qui l'attend plutôt. Des propos recueillis par Julien Traxel. Dans l'immédiat, Adrien Berru participera donc dès demain et jusqu'à dimanche au championnat de Suisse junior à Kriens et à Litau, dans le canton de Lucerne.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.